Le journal des idées, Jacques Meunier.
Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
Elisabeth Roudinesco avait observé ce qu'elle appelle un désir inconscient de fascisme en France et aujourd'hui elle revient sur le personnage de Donald Trump.
Oui, c'était d'ailleurs aussi dans l'Obs. Alors les termes, les voici: infantilisme, narcissisme malveillant, propension dictatoriale au népotisme, obsession de son anatomie. Le répertoire des pathologies est crûment analysé dans les pages débat de l'hebdomadaire L'Obs. Trump est dans le culte fou d'une Amérique qui n'existe pas, le Muslim ban serait le symptôme le plus flagrant qui oppose le déni à ce pur pays d'immigration. On pense à cette terrible formule citée par l'écrivain Robert Littell dans sa tribune d'hier dans Le Monde, le déni enveloppé de ressentiment au sein d'une colère aveuglante. Ce n'est pas la première fois qu'un malade mental, inculte et égocentrique est à la tête de ce grand pays, mais cette fois-ci des psychiatres américains sont sortis de la réserve que leur impose le code de déontologie pour réclamer une expertise psychiatrique, voire un test de QI, outrepassant la règle Goldwater qui interdit de faire des diagnostics sur les personnalités publiques. Le professeur John Gartner de l'université Johns Hopkins a lancé une pétition pour demander la destitution du président en appelant les psychiatres à poser des diagnostics à partir des éléments les plus manifestes de sa personnalité. Parmi ceux-ci, un rapport trouble à la famille, constamment présente dès qu'il apparaît en public ou donne une interview, avec sa femme mutique comme une image de mode, et la confusion des genres lorsqu'il appelle les Américains à acheter les vêtements commercialisés par sa fille, ou encore ce fils, Baron, qui est incapable de se tenir sans grimacer ou bâiller durant son investiture. En comparaison, relève Elisabeth Roudinesco, le petit John Kennedy n'a que 3 ans à l'enterrement de son père et il est magnifique.
Et on passe de l'autre côté du monde pour suivre une expérience culturelle inédite, l'introduction de la psychanalyse en Chine.
Ah oui, ça c'est très étonnant, très étonnant. Pendant plusieurs années, Pascal Assoun a conduit des séminaires pour former des psychanalystes chinois et elle raconte cette difficile acculturation de la science viennoise du 19e siècle dans l'Empire du Milieu. Un dragon sur le divan, c'est publié chez RS. Le livre rencontre donc de cette patiente et finalement fructueuse transmission avec les inévitables malentendus qu'elle a générés à ses débuts, au niveau de la théorie notamment et de la traduction des concepts fondamentaux. La psychanalyste des enfants au pays de l'enfant unique évoque notamment les insurmontables problèmes de traduction lors d'une conférence notamment où l'interprète formée au français commercial s'est égarée dans les parages sémantiques de la transaction pour traduire la notion d'objet transitionnel. Pas de salut en vue lorsqu'on est convenu donc d'adopter le registre poétique plutôt que technique. Passer d'une rive à l'autre pour désigner le passage de l'enfant au monde extérieur à l'aide de l'objet transitionnel impliquait une véritable nébuleuse de signification culturelle de nature à disperser l'auditoire. Compte tenu de la diversité ethnique de cette grande nation, les psychanalystes se sont d'ailleurs aussi fait ethnologues. C'est le cas de Wang Li, l'une des apprenties de Pascal Assoun, partie dans le Yunnan étudier les mœurs et coutumes de mariage des Mosuo. Là, un petit garçon mutique et frigorifié de moins de 4 ans lui est amené par sa mère et sa grand-mère. Le récit de sa cure et de son ouverture progressive au monde est à la fois touchant et éclairant. À partir de simples mots, nous avons offert des sourires doux, dit la thérapeute. Une naissance difficile d'une mère ayant eu elle-même des problèmes à sa venue au monde avait nimbé sa croissance d'une atmosphère étouffante d'inquiétude. Le petit Sheng Sheng s'éveilla petit à petit à raison d'une double séance hebdomadaire qui s'achevait sur une chanson à chaque fois. La parole revint et même le rire à l'occasion d'une chute comique de l'enfant imitant le chat. Nous avons créé ses regards, ses sons et ses paroles comme pour tisser une couverture douce pour cet enfant, nourrisson gelé, explique la psychanalyste chinoise qui a parfaitement intégré la fonction de l'objet transitionnel en temps de détresse.
Ce qui nous amène tout naturellement, Jacques, au sujet du dernier numéro de la revue de l'enfance et de l'adolescence, qui est la parole de l'enfant.
Voilà. Parfois, l'inconscient parle comme un enfant, dit un psychanalyste. Il s'agit d'une parole inachevée. Et comme le rappelle Arlette Pellet, avant de parler, l'enfant est lui-même parlé. C'est avec ce passé, d'ailleurs, que sa naissance comme sujet adviendra. Avant cela, une communication non-verbale peut s'instaurer, même dans le contexte difficile de la pouponnière, car l'enfant a besoin d'une relation individuante pour se développer. Chloé Ojard raconte cette expérience expérience auprès d'enfants qui arrivent en pouponnière en état de souffrance. Elle montre l'intensité de l'écoute qui est alors mobilisée et c'est l'observation attentive qui est alors requise comme un outil de soins.